Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Si vous nous rejoignez seulement, on prolonge un tour de la question lancée à 9h autour de la malbouffe responsable d'un décès sur 5 dans le monde. Le pouvoir, et Perico Legas le disait, est donc en partie dans notre assiette. Ça tombe bien, c'est aussi le fer de lance et le message d'un de nos invités qui nous rejoint, Hugo Clément. Comment j'ai arrêté de manger les animaux? L'homme est omnivore par définition, il peut manger de tout et pas forcément de la viande. Les protéines animales ne sont pas indispensables. Voilà pourquoi par conviction ou par dégoût, certains deviennent végétariens ou végans. Est-ce un phénomène de société? Elle tire la sonnette d'alarme pour tous les parents qui nous écoutent et qui seront attentifs à ces propos. Au secours, mon ado est végétarien. La sonnette d'alarme, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas forcément une lubie, que c'est un choix de société. On témoigne, on réagit avec vous au standard d'Europe 1, Julie.
Le 39-21, vous composez ce numéro et c'est nous qui vous rappelons si vous passez à l'antenne.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et on y vient de manière assez cohérente finalement. Est-ce qu'il faut penser le végétarisme comme une solution à la malbouffe? J'ai retenu quelques instants encore en studio Arnaud Cocol, médecin nutritionniste. Avec nous jusqu'à 11h, Perico Legas, rédacteur en chef à Marianne. Bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour
Merci
nous présenter cette démarche, cet itinéraire. Ça fait un an et demi maintenant que vous êtes végétarien. Katia Raffarin, bonjour.
Bonjour Wendy.
Au secours, mon dado est végétarien. Deux livres qui sonnent fort. Votre fille Théo, qui par amour des animaux, par conscience écologique aussi, a souhaité opérer cette transition. Ce n'était pas son modèle parental.
Ce n'était absolument pas son modèle parental. Nous mangeons de la viande quasiment quotidiennement, comme beaucoup de Français. En revanche, à 14 ans, on a un grand cœur et il m'a demandé à devenir végétarien. J'ai voulu l'écouter. J'ai voulu savoir ce qu'il avait à dire. Et c'était le début d'une grande aventure, d'un beau projet de vie, ce que j'explique dans le livre. Qui nous mène vers une nouvelle société, je pense, oui, on peut dire ça comme ça.
Avec beaucoup de curiosité, nouvelle société que vous avez manifestement dans le cœur aussi, Hugo Clément. À ceci près que vous racontez, c'est intéressant qu'en fait, vous n'avez pas grandi avec les animaux. Vous n'aviez pas de chat, vous n'aviez pas de chien, pas forcément une empathie pour les animaux. Tout cela, vous l'avez développé avec aussi votre profession journaliste qui vous a amené de terrain en terrain.
Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas un amoureux des animaux, comme beaucoup de Français qui ont des chiens, qui passent beaucoup de temps à s'en occuper, ou des chats ou d'autres. Moi, c'est vraiment une approche très rationnelle qui m'a poussé à arrêter de manger les animaux. Ce n'est pas une image d'un abattoir ou quelque chose qui m'a choqué plus que d'autres. Ce sont des chiffres, en fait. C'est une accumulation de chiffres, c'est ce que j'explique dans le bouquin. C'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les jours en France, 3 millions par jour en France. C'est le nombre de poissons qu'on tue tous les ans dans le monde. Ça, j'en avais aucune idée. C'est entre 1 000 et 2500 milliards par an de poissons. C'est la déforestation qui est liée essentiellement à l'élevage. C'est le gaspillage en eau. Quand j'ai appris qu'un Français mangeait en moyenne 25 kilos de viande de bœuf par an et que ça représentait 6 bains par jour en consommation d'eau, juste cette consommation de bœuf. Tous ces chiffres accumulés m'ont fait me dire, attends, pose ta fourchette et réfléchis, parce que moi j'adorais la viande. Vraiment, j'étais un gros mangeur de viande et encore plus de poissons. Mon papa est chasseur sous-marin, donc j'ai été élevé depuis tout petit avec des poissons tout frais sortis de l'eau. Et voilà, ces chiffres m'ont fait réfléchir et m'ont amené à découvrir la réalité des abattoirs et des élevages industriels.
Il y a eu trois déclics pour vous. Je vais commencer par le premier que vous citez dans ce livre, en dehors des chiffres que vous évoquez, Hugo Clément. Constat, au fil des mois qui est devenu une évidence, je n'ai pas besoin de viande et de poisson pour être en bonne santé. Alors c'est tout de suite ce que je vous livre à votre réflexion, docteur et médecin nutritionniste Arnaud Cocol, c'est vrai ?
Oui, complètement. On n'a pas besoin de manger de la viande ou du poisson pour être en bonne santé. Mais par contre, il faut bien supplémenter. Et la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui basculent de ce modèle alimentaire omnivore vers une alimentation végétalienne. Donc ils vont pousser leur discours jusqu'au bout, c'est-à-dire manger plus que des végétaux et des céréales. Mais par contre, ils peuvent être désarçonnés par les équivalences. Et on arrive avec des gens qui ont des fontes musculaires, ce qu'on appelle la sarcopénie quand ça devient pathologique. Et cette fonte musculaire est vraiment problématique. Moi j'ai des patients donc en apparente bonne santé, mais qui ne sont pas en bonne santé. Donc ils ne sont pas en bonne santé parce qu'ils n'ont pas bien supplémenté et ils sont en carence protéique, qui parfois peut leur poser des problèmes d'ostéoporose ou de chute. etc., ou de maladies.
D'où la nécessité d'être suivi. Et d'ailleurs, c'est
absolument
ce qu'a demandé Théo, votre fils, à avoir l'avis aussi d'un nutritionniste pour vous rassurer aussi.
Le livre, il est là pour rassurer les parents. Mmh. Avant toute chose, c'est vraiment très clair. Ce que j'ai tout de suite compris, c'est que je ne pouvais pas supprimer la viande sans la remplacer. C'était impossible. Et on rigole pas avec la croissance d'un adolescent. Donc, pourquoi j'ai fait le livre ? Parce que j'ai cherché beaucoup d'informations là-dessus. Il y en avait très, très peu. Et je me suis dit, on supprime la viande de l'assiette. On doit la remplacer par quoi ? Et en fait, finalement, c'est hyper simple. Il suffit juste de mélanger. Alors là, c'est super. J'ai un médecin juste à côté de moi, donc c'est formidable. Il suffit juste de la remplacer par des légumineuses et des céréales. Et tout se passe très bien. Ensuite, je suis désolée.
Ah non, mais Perico Rigas n'a pas dit le contraire.
Il n'a pas dit le contraire,
non,
je croyais qu'il avait dit. D'accord. Pardon.
C'est des clichés qui circulent.
Oui, parce que justement, j'ai entendu un long soupir, donc je me suis dit, si, je vous assure, parce que justement, j'ai demandé à ce qu'il y ait une nutritionniste qui participe au livre, parce qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment très peur de faire des bêtises, et donc j'ai demandé à ce qu'une nutritionniste vraiment me corrige pour être sûre que je n'allais pas... faire naître des carences dans l'alimentation de mon fils.
Voilà. Oui. Non, mais alors justement, parole à Perico Legas, qui connaît le terroir, qui défend aussi, et qui voit poindre cette tendance comme mode de vie aussi, comme philosophie éthique, le végétarisme.
Moi, je m'en réjouis, parce que c'est une prise de conscience, la conscience du végétal, la conscience du vivant. Du coup, c'est pas une révolution, c'est une réaction. Comme quoi, on peut être réactionnaire et aller dans le sens de l'histoire. Et on était arrivé à un tel point de barbarie. Je suis un consommateur de viande, je défends la consommation de viande, mais si c'est pour la consommer comme ça, j'arrête tout de suite. Moi, je dis, je suis un végétarien potentiel. Même quelque part, un végan, pourvu que tout ça ne devienne pas un dogme et qu'on ne se jette pas des anathèmes à la figure. Donc, moi, j'ai une certitude en tant qu'omnivore. Je défends l'omnivorité de l'être humain. Nous ne sommes ni carnivores ni herbivores. Mais aujourd'hui, nous avons une connaissance des aliments qui fait qu'effectivement, on peut, avec du végétal, à condition d'avoir les protéines remplaçantes, se nourrir que de... Et je respecte les appétits et les mœurs alimentaires de chacun, que ce soit ethnique et confessionnel, et je donnerai ma vie comme un voltairien pour que les véganes et les végétariens puissent continuer à défendre leur cause. Moi, je ferai en sorte qu'ils reviennent. Le jour où je pourrai leur assurer une consommation de viande digne, respectueuse de la nature, de la souffrance animale et de l'environnement, parce qu'en même temps, sans élevage, il n'y a pas de civilisation, il faut bien nourrir les sols et que l'élevage qui a été inventé par l'homme, qui est constitutif de civilisation, peut être aujourd'hui géré. En tout cas, les végétariens, les véganes nous font prendre conscience qu'il y a un grand problème dans notre alimentation. On a totalement oublié la part du légume et la première préoccupation des grands cuisiniers français aujourd'hui, c'est de réintroduire le légume. Et ensuite, je suis persuadé qu'on pourra arriver un jour. Alors attention, il y a une démographie qui fait qu'il faut nourrir tout le monde. Voilà, moi je suis prêt à réduire ma consommation de viande de 90%. Mais vous ne me retirez pas, À un moment donné, si j'ai la certitude que l'agneau, que le bœuf, que le cochon ont été élevés dans des conditions décentes, qu'il a été abattu sans souffrance, et élevé, parce que moi j'ai envie de manger du bonheur, j'ai envie de manger un animal qui a été sacrifié pour ce qu'il est, voilà. Donc, aujourd'hui, le marché, j'allais dire le néolibéralisme consumériste et la financiarisation de notre alimentation fait que la consommation de viande est devenue une barbarie, et je comprends ces mouvements, je fais une partie du chemin avec eux, je voudrais que les derniers centimètres on puisse dire, aidez-moi aussi à consommer de la viande de façon intelligente, éventuellement, comme je rêverais qu'un musulman mange du porc en disant c'est fini, il n'y a plus de problème, est-ce qu'on peut un jour se mettre d'accord et manger tous ensemble un petit peu de viande dans des conditions qui répondent aux conditions
merci
morales.
Merci pour cheminer justement cette même problématique. Hugo Clément.
Moi, je suis assez d'accord avec vous. Dans mon livre, l'objectif, c'est pas du tout de culpabiliser ni les gens qui mangent de la viande, ni les éleveurs, parce que pour moi, c'est plus des victimes du système actuel que des coupables. Malheureusement, sur la capacité à manger de la bonne viande aujourd'hui, si on prend l'exemple du cochon en France, 95% des porcs sont élevés dans des bâtiments, enfermés toute leur vie, ne sortent jamais, sauf une fois pour aller à l'abattoir, et ne savent même pas ce que c'est de la terre ou de la paille, puisqu'ils vivent sur ce qu'on appelle un caillebotis, c'est-à-dire un sol métallique ou plastique à travers lequel passent les déjections. Voilà, ça c'est la vie de 95% des cochons.
Et vous le savez, pour y être allé par exemple en pleine nuit avec Combini, suivre des
équipes
en vidéo
cachée. Je suis allé à l'intérieur d'une de ces usines à cochons qu'ils appellent une clinique pour les truies.
Et c'est l'horreur.
Alors ça a tout sauf d'une clinique pour être humain, malheureusement.
C'est de l'élevage industriel.
Voilà,
on n'est pas dans l'élevage, on est dans l'industrie.
C'est de l'élevage industriel, mais malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que quand on mange, quand on est un consommateur lambda, on va dire, qu'on mange du jambon toutes les semaines, malheureusement, on mange ce jambon-là. On n'a pas le choix,
on
n'a souvent pas l'argent pour manger un autre type de jambon. Et puis après, il y a la question des abattoirs. C'est-à-dire que même la bonne viande, ce qu'on appelle la bonne viande, ce que les gens qui mangent de la viande appellent de la bonne viande, la viande bio, élevée en plein air, elle passe aujourd'hui par les mêmes abattoirs que la viande qui vient de l'élevage industriel. Et ça, c'est un vrai problème. Ces animaux-là sont abattus dans les mêmes conditions. Ils subissent les mêmes ratés, ils sont victimes du même stress et ils souffrent tous. Moi, j'ai rencontré des ouvriers qui ont travaillé pendant plusieurs années dans les abattoirs. Tous les animaux qui rentrent dans un abattoir du premier jusqu'au dernier aujourd'hui souffrent. Évidemment. Parce qu'ils ressentent le stress, parce qu'ils voient leurs congénères se faire massacrer et parce que les méthodes de mise à mort ne sont pas du tout abouties aujourd'hui. Et donc oui, la viande qu'on produit aujourd'hui est issue d'animaux qui ont souffert. Et dernière chose sur ce que vous disiez sur « il faut bien nourrir l'humanité », aujourd'hui, la viande et le poisson nourrissent essentiellement les pays riches. Un Africain en moyenne mange 15 kilos de viande par an. Un Français, c'est plus de 85 kilos. Donc quand l'industrie de la viande vous dit « oui, mais nous, on nourrit le monde », c'est faux. On nourrit les pays riches qui, de toute façon, mangent déjà trop. Donc voilà la problématique pour moi.
Voilà, les faits sont posés, les ressentis également. Je vous fais réagir juste après la pause. Katia Raffarin, Arnaud Cocolle, merci de nous suivre sur ce modèle végétarisme. Sur quoi s'enracine-t-il? Merci de témoigner, si vous le souhaitez, aussi au Standard d'Europe 1 avec Julie, on vous attend.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur le végétarisme, un nouveau mode de vie qui séduit de plus en plus la nouvelle génération. Wendy Bouchard.
Qui n'est pas un choix guidé uniquement par l'émotion, mais aussi par les faits, par les chiffres. Hugo Clément, qui publie « Comment j'ai arrêté de manger les animaux » aux éditions du Seuil, nous le dit. 3 millions d'animaux sont abattus chaque jour en France, c'est ce qui l'a fait réagir. 70% de la surface agricole mondiale est monopolisée par l'élevage. L'élevage et la pêche industrielle qui sont un fléau pour la planète. C'est de ce constat qu'il est parti pour opérer sa transition. Ça fait un an et demi maintenant, Hugo Clément. Vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre peau?
On va faire une consultation avec le docteur juste après. Mais non, honnêtement, je me sens très bien.
Important.
Ouais. Je me sens très bien et c'est vrai que cette
question... maigri un peu.
Ouais, j'ai perdu 5 kilos, mais c'est ce qui arrive à la plupart des gens qui arrêtent la viande et le poisson.
Tant
parce
mieux.
Que c'est une alimentation qui est un peu plus riche en graisse. Mais ce qui est assez marrant, c'est vrai que quand vous êtes végétarien ou vegan et que vous tombez malade, moi j'ai mes potes qui me disent « Ah bah tu vois, je t'avais dit, t'as arrêté la viande, voilà, du coup maintenant t'es malade. » et cette réflexion-là, on la fait jamais à l'inverse. Quelqu'un qui mange de la viande et du poisson quand il tombe malade, on lui dit jamais que c'est à cause de son régime alimentaire. Et ce qu'il faut répéter, et le docteur a raison là-dessus, c'est qu'un régime végétarien et vegan doit être équilibré. Si on mange que des pâtes avec de la sauce tomate, on va avoir des carences. Mais de la même manière, si vous mangez que du steak et des frites, vous allez avoir des carences aussi.
Ah bah oui. Et de toute façon, puis on parlera aussi d'une autre chose, c'est qu'on peut être dans une malbouffe végétarienne.
Juste une chose, je rebondis tout de suite parce que sinon je vais avoir du mal. Quand j'ai prévenu un cadre éducatif au lycée, ouais, je crois que c'était au lycée, en expliquant que Théo était devenu végétarien et que
votre
à la cantine ça posait des soucis, que j'avais envie qu'il ait peut-être une double portion de féculents parce que ça allait pas bien le nourrir. Mais au moins ça allait le nourrir jusqu'à la fin de la journée et je pourrais prendre après la suite. On m'a juste dit, mais il faut qu'il aille voir l'infirmière. J'ai le mail, quoi. On me dit, mon fils est végétarien, on me dit, mais il faut qu'il aille voir l'infirmière. Alors je lui dis, mais mon fils est végétarien, il n'est pas malade. Je veux juste qu'il ait peut-être une double portion, ça on peut peut-être jouer là-dessus. Non, voilà. Donc je voulais rebondir parce que c'est effectivement ça. Quand on ne mange plus de viande, on a peur, c'est un préjugé, c'est le premier des préjugés. Vous ne mangez pas de viande, donc vous allez tomber malade, vous allez avoir des carences. Et je suis ravie d'avoir un docteur à côté de moi parce que du coup, on va mettre les choses au point tout de suite. Non.
C'est ce qui vous a rassuré d'abord.
Voilà, mais le livre, il est fait pour ça. Oui. On ne met pas en danger nos ados quand ils mangent de la viande.
Quand ils sont végétariens, mon Dieu.
Quand ils ne mangent pas de viande.
Beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont végétariens et véganes, ça faut le rappeler. Hein, Djokovic, Serena Williams, Lewis Hamilton.
Moi, je vais citer Pietra Gala, Guilhem. Ah non, voilà, chacun son.
Notamment. Chez First Edition, au secours, mon ado est végétarien, Arnaud Cocolle. Réaction à ce que vous entendez depuis tout à l'heure.
Oui.
Monsieur docteur nutritionniste.
Sur les abattoirs, tout à fait raison. Les abattoirs, il y a un gros problème qui avait déjà été soulevé dans un bouquin américain qui s'appelle Les emplois du fast-food que je vous recommande, d'Eric Schlosser, qui est absolument dramatique sur les conditions d'abattage des animaux aux États-Unis. Et en France, on peut avoir ça. Et la façon dont la bête est tuée peut rejaillir sur le stress oxydatif, c'est-à-dire la façon dont la viande va subir ce stress au moment de la mort.
Oui.
Et quand vous allez ingérer ça, vous allez absorber ce stress. C'est-à-dire que la viande que vous allez ingérer, elle est toxique pour vous. Elle va modifier votre ADN.
C'est pour ça qu'on ne
se sent
pas très bien.
Ça peut, mais ça va être au long cours. Mais ça va développer des maladies, en tout cas en vous. Donc c'est vrai qu'il faut absolument revenir sur cette éthique déjà d'abattage. Autre problématique, tous les pays en voie de développement, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de manger de la viande. Donc la modification du statut fait que vous prenez par exemple en Angola, qui est un géant futur, le Nigeria également, qui est un géant futur au point de vue population, on voit de plus en plus d'augmentation de la part de viande dans les tranches de population plus aisées. Ça va être un vrai problème dans les années qui viennent. C'est-à-dire que la consommation de viande n'est pas faite de s'arrêter. Et nous, les pays occidentaux, on peut montrer l'exemple, effectivement, non pas de renoncement, mais pour moi, du moins. Moi, je suis plutôt flexitarien. C'est-à-dire que je pense qu'il faut mieux manger, et je rejoins Perico Légas, je pense qu'il faut mieux manger, mais dans une diversité, pour être optimal dans nos conditions d'apport
nutriments.
Ça veut
dire que vous mangez de la viande quelques fois par mois seulement ?
Oui, très peu, très peu. Je suis plutôt poisson, je suis désolé Hugo Clément, mais je suis plutôt poisson.
Pas désolé pour moi.
Hein. C'est pour les poissons, on ne va pas continuer à manger. Hein. 1 000 milliards.
Mais on voit par exemple que les Chinois actuellement sont en train de racheter tous les ports de la Méditerranée. Par exemple, Tanger a été racheté par les Chinois. Tout ça pour aller faire des pêches de façon outrancière dans la Méditerranée. Donc il y a des problèmes. Après, on peut disserter aussi sur les plastiques, etc. C'est-à-dire que nous sommes en train de foutre notre planète en l'air.
Oui.
Donc c'est une catastrophe.
Et le rêve que l'on peut faire et que vous faites, Hugo Clément, d'une société qui passe progressivement au végétarisme est un rêve quand même très occidental.
Très occidental, mais c'est nous qui devons avoir ce rêve-là. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, c'est nous qui consommons l'essentiel de la viande et du poisson qui est produit. Et on en parlait avec Perico Légas pendant la pub. Ce qui se passe dans les océans, c'est encore pire que ce qui se passe sur la terre ferme. Les poissons qu'on va pêcher en Afrique, qu'on transforme en farine pour nourrir les saumons d'élevage de Norvège, qui ensuite nourrissent les Occidentaux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Il faut 7 kilos de poissons sauvages pour produire un kilo de poisson d'élevage. C'est un ravage écologique absolument monstrueux. L'enjeu, il est simple. Les migrants arrivent. Si nous ne partageons pas, si nous ne redistribuons pas nos richesses, dont le patrimoine alimentaire, vers des gens qui veulent manger de la viande de ces pays-là et qui vont devenir des pays de 100, 200, 300 millions d'habitants, on va à un chaos planétaire absolument retentissant. Donc il est clair qu'il faut moraliser aujourd'hui notre consommation. Le problème, il est simple. On a industrialisé pour financiariser, et je mets toujours l'accent sur la grande distribution, ce besoin de dire aux gens « consommez encore plus, toujours plus », on arrive à ce genre d'équation qui est tout à fait barbare. Le poisson, moi je suis de Saint-Jean-Luz, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait les pêcheurs, artisans pêcheurs sur des bateaux, ils partaient en campagne pour le thon, la sardine, l'anchois. Quand un bateau avait rempli son quota et qu'il en avait un peu plus, il appelait, dès qu'ils avaient eu la radio, ils appelaient les autres en disant « arrêtez de pêcher, j'ai le surplus, je vous le donne en arrivant au port
».
Préservation de la ressource.
Quelle régulation à l'époque.
Voilà, on pille les mers dans des conditions en plus pour les cétacés et autres. Voilà, tout ça pour surproduire des produits dont l'humanité n'a pas besoin et qui est en train de tuer la planète.
Arnaud Coquin, un tout petit mot avant la pause et après je
reviens. Alors ce que je constate, et on rebondira je pense après la pause, mais c'est que manger végétal, manger végétarien, ça peut être de la malbouffe également. Il faut le savoir. Parce que là, il y a une industrialisation actuellement, c'est-à-dire que tous les géants de l'agroalimentaire sont en train de foncer sur cette niche.
Qui ont horreur du vide, et qui ont bien compris la niche, voilà. En effet. On va y venir et je voudrais que vous répondiez juste après la pause également à Michel qui nous appelle au 3921, qui est une végétarienne qui se questionne depuis Vitry-le-François au Standard. À tout de suite avec nos invités jusqu'à 11h sur le sujet.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Être végétarien, un choix de vie, une éthique, une politique, je dirais aussi une philosophie.
Oh oui.
Wendy Bouchard.
Oh oui, c'est une philosophie pour Théo, votre fils de 15 ans, Katia Raffarin, dont vous racontez l'itinéraire dans votre livre chez First Edition.
Ça le devient, en tout cas. Ça le devient. Je ne sais pas si je racontais tout à l'heure pendant la pause que il me regarde de temps en temps en me disant « t'as des chaussures en cuir encore, maman, tu portes des sacs en cuir ». Donc j'ai acheté mon premier sac vegan.
Ah oui, donc c'est-à-dire qu'il est en train de passer du végétarisme.
Il est en train de passer du végétarisme au stade vegan.
C'est-à-dire
mais
qu'il
attention,
mangera plus du tout de protéines animales.
Non, mais attention, je veille. C'est aussi pour ça que j'encourage et que je veux rassurer les parents, c'est que si on les suit. Si on les cadre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, il n'y a pas de raison qu'on en fasse des extrémistes. On peut tout à fait être vegan et bien se comporter, parce qu'on en a peur aujourd'hui, mais non. Il n'y a pas de souci. Et j'ai ramené mon sac en cuir, si vous voulez le voir.
Allez-y. Le problème, c'est qu'il y a aussi, dans tous les mouvements, des dérives sectaires aussi. Hein, les vegans qui s'attaquent aux boucheries, donc, ça n'a aucun sens pour la cause. Hein.
Donc voilà.
Eh ben, il est beau, voilà. En vidéo sur
donc,
ça. C'est un sac
vegan. C'est un sac vegan, figurez-vous.
En cuir. Fibre d'ananas, il y a beaucoup
aucune idée. Incroyable. J'ai même pas regardé, voyez-vous.
Bah, c'est impressionnant.
Ça
formidable. Ouais. Ça a tout à fait.
J'avais pas prévu de le montrer, mais je le montre parce que franchement, voilà.
C'est une maman qui est vraiment en phase aussi avec les convictions.
Je le suis, je le suis, parce que je pense que voilà, ils ont des convictions, ils ont envie d'avancer dans la vie, ils ont envie de faire des choses différentes, de faire les choses différemment de nous. Et je pense que on doit les soutenir. C'est-à-dire que on doit être le changement qu'on veut avoir dans le monde.
Ces jeunes qui se sont mobilisés aussi pour le climat, 1 million dans le monde.
En 1789, on prenait la Bastille. Mmh. En 68, on défaisait les pavés pour les jeter sur les CRS. Et aujourd'hui, j'en ai dans ma famille, il y a une démarche politique de contestation de cette société de consommation. Mmh. Voilà, ce productivisme, ce néolibéralisme sauvage. Eh bien, quand on n'a plus de ressources, j'allais dire politiques, on sait que ne voter ne va pas. Mmh. Eh bien, la pratique quotidienne, c'est de passer au végétarisme, au végétalisme. Le tout, voilà. Et c'est qu'on ne bascule pas dans le dogmatisme. C'est une magnifique démarche. Mmh, mmh. On a besoin de manger plus de légumes. C'est une protection de l'environnement. Encore que, si c'est des légumes chargés de pesticides, le végétarisme devient un poison. Et là, il faut faire attention. Mais c'est une démarche aujourd'hui qui est louable dans la jeunesse française.
Tout petit mot avant Arnaud Cocol à Hugo Clément, parce que vous racontez notamment dans votre livre que vous avez une famille et des parents très bienveillants qui sont en empathie. Et vous allez au dîner de fin d'année à Colmar en Alsace chez vos grands-parents. Plat du jour, c'est traditionnellement le casseleur, de la viande de porc fumée que l'on mange chaud ou froid. Vous dites non merci à votre grand-mère, je ne mange plus de viande. Ben pourquoi ? Tu as du cholestérol ? Non, je suis végétarien. Voilà un mot qu'ils entendent maintenant, qu'ils ont accepté aussi, vos grands-parents ?
Oui, bien sûr, parce qu'ils ont toujours été très proches de la nature et donc ils comprennent ma démarche. Voilà, ils ne veulent pas s'y mettre parce qu'ils aiment leur viande, mais ils en mangent assez peu. Et puis, en fait, moi, je me suis rendu compte que mes grands-parents, comme la plupart des grands-parents, mangeaient peu de viande. C'est soupe, en hiver, c'est soupe tous les soirs. Ils ont gardé ça et le casseler, c'est le week-end. Et il n'y a que la génération de mes parents, notre génération, qui se met à manger de la viande quasiment tous les jours,
voire deux fois par jour.
Absolument, on les a encouragés.
Les interrogations que me posent mes patients quant à passer au végan ou au végétarisme, excusez-moi, datent de l'affaire des lasagnes qui ont été vraiment, je pense, oui, les lasagnes de cheval.
Oui.
Et donc c'était en 2011 à peu près de tête, et 13. Ça a été 2013. Et c'est la vraie rupture à ce moment-là de contrat de confiance avec les industriels.
Et de la folie des circuits. Comment on peut retrouver de la viande de cheval dans les lasagnes étiquetées pur bœuf chez nous dans une.
Et je pense que les industriels maintenant doivent entendre ce message, c'est-à-dire que les conso-acteurs peuvent boycotter leurs produits. Donc ça, c'est valable dans tous les domaines. Donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'ils doivent être beaucoup plus vertueux dans leur démarche et qu'ils comprennent ça, parce que le boycott, c'est l'arme ultime.
Bien sûr. Michel, vous êtes avec nous au 39-21. Bonjour.
Oui, merci d'avoir choisi mon appel.
Merci à vous, Michel. On vous écoute pour votre témoignage.
Alors, j'ai 71 ans. Je n'ai jamais plus mangé de viande depuis ma tendre enfance, jamais. Bon, j'en mangeais quand même parce que mes parents me forçaient. C'est-à-dire que je mâchais et après, j'avalais tout rond. Mmh. Et après, quand je suis devenue adulte, j'ai décidé de ne plus manger de viande. Et pour le poisson, pareil, j'arrive pas à en manger.
Ah, vous avez une conscience très, très tôt développée, manifestement. Aujourd'hui, vous vivez bien avec ce choix de vie qui est hérité de l'enfance ?
Moi, oui, mais mon corps, il dit pas la même chose parce que je manque de fer. Et je suis allée voir une nutritionniste et elle m'a dit de remanger de la viande. Je ne peux pas, c'est impossible. Elle m'a dit de manger du poisson 3 fois par jour. Alors j'ai essayé.
Mais au petit déjeuner aussi.
Petit déjeuner.
Par semaine peut-être. Oui.
Non. Elle m'a dit 3 fois par jour.
Elle
m'a dit en Norvège, je mange bien du poisson le matin.
C'est une nutritionniste qui a des comptes à régler. Manifestement.
Il manque de fer, qui n'est pas propre aux végétariens. Les omnivores aussi manquent beaucoup de fer. Il faut le savoir.
Arnaud Cocol, que peut faire Michel pour retrouver son niveau de fer sans remanger viande ni poisson?
Le fer, on peut le prendre de toute façon sous forme de comprimé.
Exactement.
Parce que ça, les végétariens et les véganes le savent très bien. Mmh. Donc la vitamine B12 également, c'est un autre problème. Mais la vitamine B12, qui n'est pas dans les protéines végétales, mais uniquement dans les protéines animales, doit être supplémentée sous forme de comprimé ou d'injection mensuelle. Donc, quant au cas de Michel, je pense qu'effectivement, il faut revoir peut-être un autre avis nutritionnel, parce que pousser à la consommation des oméga-3 en permanence, c'est peut-être pas le problème.
Merci Michel. Voilà, changer de médecin en bref. Hein, et à tout de suite sur Europe. Europe 1. Europe 1.
Croyez-vous au végétarisme comme choix de consommation, comme choix de vie d'ailleurs, choix de vie tout court? Wendy Bouchard.
En tout cas, ne pas culpabiliser, ne pas moraliser, c'est ce que vous écrivez aussi dans votre ouvrage, qui est un vrai livre enquêté journalistique, Hugo Clément. Comment j'ai arrêté de manger les animaux, aux éditions du Seuil. Vous ne surfez pas simplement sur l'émotion qu'on peut partager, notamment liée à ces images terribles de vidéochocs dans les abattoirs. Vous êtes également avec nous, Katia Raffarin. Au secours, mon ado est végétarien, aux éditions First. Votre ado s'appelle Théo, il a 15 ans et il est devenu végétarien.
Il a 17 ans.
Il a 17 ans maintenant, oui, il a commencé à 15 ans. Et à 14 ans, il est en train de glisser vers le véganisme, donc rejet de toutes les protéines animales. Vous citez Hugo Clément, et je resalue Perico Legas qui est avec nous, et je remercie Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, d'avoir passé un peu de temps avec nous également. Vous citez Paul McCartney, végétarien de son état, dans ce livre. Si tous les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. Ça, c'est une phrase évidemment qui vous a fait réagir et qui est assez riche de sens au fond.
Oui, parce que l'industrie de la viande le sait bien, son business repose sur l'incapacité des consommateurs à savoir ce qui se passe à la fois dans les abattoirs et dans les élevages industriels.
Ce que cherche à cacher Bigard par exemple, qui est aux mains de grands
Bigard
abattoirs.
Bigard et toutes les autres marques qui font de l'agro-business sur les animaux. Si vous allez organiser des visites de classe dans les abattoirs, je peux vous garantir que la génération qui suit, elle sera végétarienne à 90%.
Ouais. Mais c'est ce qui se passe, parce que ce ne sont pas des visites de classe. Non, mais c'est, le portable, il est dans le lit, hein. Oui. Il est dans leur chambre quand même.
Et L214 est avec les ados.
Oui, et pas que L214, donc pardon.
Opération coup de poing.
Mais c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin pour essayer d'informer au maximum, en particulier les jeunes, sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, parce qu'on ne s'en rend même plus compte en fait. Et il y a quelque chose qui est très révélateur pour moi dans notre société aujourd'hui, c'est notre schizophrénie entre les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. La grande majorité des Français aiment les animaux. Ils aiment leurs chiens, ils aiment leurs chats. Et si vous allez dans la rue prendre un chien, que vous le découpez en morceaux, que vous le faites cuire au barbecue, tout le monde va vous dire déjà que vous êtes complètement fou. Et en plus, il y a des lois qui vont vous s'en prendre à vous, parce que vous allez être condamné, parce que c'est interdit de faire ça. Par contre, le cochon, qui est un animal au moins aussi intelligent que le chien, voire plus sur certains aspects cognitifs, on se permet de lui imposer des traitements absolument abominables et de le tuer par millions chaque année. Et cette double vision, en fonction de si on vit avec ces animaux ou si on les met loin de nous dans des campagnes enfermées dans des bâtiments, c'est assez significatif.
Je suis obligé de mettre un bémol. Ne généralisons pas. Ce que vous dénoncez est absolument réel. Et on est tous solidaires là-dessus. Et parce que pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le productivisme, on a financiarisé et on a industrialisé la consommation de viande pour en faire du profit financier. C'est de là que ça vient. Les images de L214, ce sont les abattoirs où il faut passer un certain nombre de milliers d'animaux par mois, et donc il n'y a plus aucune éthique.
Avec des cadences infernales.
Le mur transparent de Paul McCartney, il suffit de mettre une caméra dans les... Le gouvernement ne veut pas.
Une caméra,
c'est terminé. Tout est filmé, tout est vu. Je peux vous dire que, je ne dis pas que ça serait idéal, ça changerait les choses. Il existe encore en France, Dieu merci, des abattoirs où on tue les animaux sans souffrance. Le progrès de la science fait qu'on va pouvoir obtenir des étourdissements de plus en plus efficaces, mais ça va supposer un coût. Donc cette viande, elle va devenir plus chère. Ça tombe bien, on va en manger moins. À la fin du mois, on n'aura pas un centime de plus pour une viande proprement élevée, bien abattue et décemment consommée. Nous allons y arriver. On ne peut pas se passer de l'élevage pour l'avenir de la planète. Voilà. On peut considérer politiquement, c'est une croyance. On ne peut pas se passer d'élevage. Ces animaux ont été inventés par l'homme pour être consommés parce que nous sommes omnivores et que nous avons besoin de consommer de la viande. Et il y a des gens auxquels vous ne pourrez pas interdire de continuer à consommer de la viande. Il y a ceux qui n'en consomment pas beaucoup qui veulent y arriver, on l'a dit à l'heure.
Pas un besoin, disait Arnaud Cocolle. On peut se passer de viande, en l'occurrence.
Oui,
non,
mais
c'est pas vous qui allez décider. Alors, ce sont les jeunes qui vont décider pour plus tard.
Oui, on peut scientifiquement.
Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas vous qui allez décider, monsieur.
Non.
Je l'ai dit tout à fait, mais moi je les défends aussi un petit peu. Parce que quand je vois qu'il y a des ados aujourd'hui qui sont obligés de manger de la viande à la maison alors qu'ils ne le veulent pas, je me dis que quand même il y a quelque chose à faire.
On est okay. Tout ce que vous allez obtenir un jour, c'est un contre-végétarisme. C'est-à-dire,
mais
à force de dire.
Pas forcément, pourquoi ? Pourquoi prévoir le pire ?
J'ai envie de voir le meilleur. Aujourd'hui,
en fait.
L'anathème, il est sur les mangeurs de viande. Ouais. Ceux qui aujourd'hui se cachent et rasent les murs, c'est les gens qui mangent de la viande qu'on montre des droits.
Non, je vous assure que les végétariens aussi.
Mais madame, Katia, je ne vous mets pas en cause. Je vous dis que la cause du végétarisme est en train de faire des dégâts considérables qui fait qu'il y a des gens qui commencent à s'en détourner.
Mais nous, on est justement sur un autre terrain.
Pourquoi je suis revenu, il existe. Pourquoi je suis revenu à la consommation de viande? Parce que le végétarisme devient une espèce de barbarie.
Mais il y a aussi des gens qui disent pourquoi j'ai arrêté la viande.
Si,
donc on va pas rentrer là-dedans.
Les consommateurs de viande n'ont jamais cassé.
Pourquoi vous dites barbarie? Le végétarisme devient une sorte de barbarie.
Parce que l'idéologie, comme c'est le camp du bien, et que manger de la viande, c'est
alors
mal.
Ça, une dictature, donc, vous voulez dire, plutôt.
Une dictature et une barbarie, parce que le comportement barbare des gens qui cassent les vitrines, ça, qui ah, cassent... Oui, ça. Voilà. Ben oui, mais c'est ça, la barbarie,
oui, mais
c'est
là,
le comportement.
Là, ils pourrissent la cause, si et vous êtes les premiers
si
à dénoncer.
Si je peux, c'est récurrent comme phénomène.
Non, alors, si je peux me permettre, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Effectivement, il y a des gens dans le mouvement vegan qui sont des extrémistes et qui font des choses qui sont absolument inacceptables. Ça représente en nombre une infime proportion de ces gens-là. Le mot barbarie, pardonnez-moi, on ne peut pas dire aujourd'hui que les végétariens sont barbares envers les consommateurs de viande. La barbarie, elle se trouve dans les abattoirs,
absolument,
dans les
bien
élevages industriels, dans les chalutiers industriels. Elle est là, la barbarie.
Je l'ai dit au début
elle est là, la barbarie.
Je
moi, je pense qu'il faut... Je connais... Enfin, autour de moi, j'ai majorité de mangeurs de viande et de poissons. Je connais personne qui a dû me voir un jour en disant « Hugo, franchement, je rase les murs, j'en peux plus. Quand je suis allé acheter mon steak tout à l'heure, j'avais honte. » Personne ne dit personne. Ça. Il faut arrêter. Personne ne dit ça. Il n'y a pas une dictature des végétariens qui impose aux gens...
Le véganisme stigmatise les mangeurs de viande comme des gens qui
non,
sont
ce sont les mangeurs de viande qui se stigmatisent tout seuls. Et ça, c'est un souci.
Alors attendez, il y a encore autre chose, un pas différent.
Et L214 sont des gens extrêmement agressifs qui sont dans une propagande.
Oui, mais nous ne sommes pas... L214, c'est pas vrai. Le seul travail d'L214...
Ils se sont adoucis sur la cause.
Non, le seul travail d'L214, ils ne mènent jamais d'action dont vous parlez. C'est-à-dire qu'ils font jamais d'action coup de poing contre des gens.
Jamais dit ça.
La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils filment et qu'ils montrent ce qui se passe. Voilà ce que fait L214. On peut pas dire que ces gens sont des barbares ou que ces gens sont agressifs ou qui stigmatisent. Ils montrent la réalité des choses.
Maxime, vous êtes avec nous au Standard Europe 1 en 39-21. Bonjour Maxime. Vous nous appelez de Metz, en Moselle, monsieur. Vous vouliez réagir à cette émission consacrée au végétarisme, notamment.
Oui, premièrement, je vous fais un petit détail sur la viande de cheval. Que les consommateurs se rassurent, ce n'était qu'une question, malheureusement, de prix. Donc, comme le cheval, aujourd'hui, est plus cher que le... Il risque plus d'y avoir de cheval dans les lasagnes. Mais ça, c'est un détail. Ce que je voulais demander à un de vos protagonistes de l'émission, c'est comment il va abattre les animaux sans les faire souffrir. Parce que quelle que soit la manière où vous les abattiez, même avec un matador dans les abattoirs, ils vont souffrir. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je sais qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Donc je voudrais qu'il nous en propose une autre.
Hugo Clément,
non, je pense que ça s'adresse plutôt à Perico Légas.
Non, mais Maxime, il y a aujourd'hui des technologies qui sont onéreuses, où on étourdit l'animal tout simplement en le gazant, en l'étourdissant, et s'il est bien isolé, qu'il ne voit pas les autres souffrir, et qu'il est abattu à une cadence normale, de façon propre, par un vrai abatteur professionnel, on peut faire des choses qui sont très correctes. Oui. L'acte de mort est un acte de mort.
De toute façon.
Mais je connais déjà des philosophes qui sont en train de me dire que la souffrance végétale d'une carotte qu'on arrache, voilà. Mais oui, mais tout
pardon,
est relatif.
Pardon, parce que le cri de la carotte, c'est un grand classique.
Non, c'est pas ça. Je vous dis qu'il y a une souffrance végétale.
Alors, tout est le degré de prise de conscience,
est-ce qu'on accepte la souffrance végétale?
Là, vous êtes d'accord que c'est un problème de cadence et que vous mettez aussi en valeur dans votre livre, Hugo, qu'il y a de moins en moins d'abattoirs municipaux, de plus en plus de gros abattoirs qui pratiquent des cadences infernales et qu'il faut revenir peut-être à des petites structures.
Je suis désolé de briser les illusions là-dessus. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont bossé dans les abattoirs pendant des années, y compris dans des petits abattoirs municipaux, y compris un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Do, qui était enquêteur dans les abattoirs, qui a visité 100% des abattoirs de France. Il n'y a pas un seul abattoir, où la législation est respectée. Tous les abattoirs enfreignent la législation. Dans tous les abattoirs, 100% des abattoirs, les animaux souffrent, parce que même quand la législation est respectée, il y a des ratés. Et il y a, pas des ratés une fois de temps en temps, il y a entre plus de 20% de ratés sur l'étourdissement des animaux. Les animaux souffrent dans tous les abattoirs. Et on parle des animaux terrestres, mais les poissons. Sur les poissons, il n'y a aucune législation. C'est-à-dire que rien n'interdit aux gens, aux pêcheurs, de sortir des poissons, de les laisser agoniser pendant des dizaines de minutes dans les filets. Parce que qu'est-ce que ressent un poisson quand vous le sortez de l'eau dans un filet? C'est comme quand vous noyez. Il ressent exactement la même chose qu'un être humain qui se noie. Rien n'empêche d'éviscérer vivant les poissons, de les congeler vivants. Donc voilà, c'est une réalité. Moi, je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas manger de la viande. Moi, j'ai décidé de ne pas en manger. Et la réalité, c'est que tous les animaux qu'on mange, du premier jusqu'au dernier, souffrent. Et vous parlez à n'importe quel ouvrier d'abattoir, n'importe quelle personne qui participe à ces systèmes-là, ils vont tous vous dire la même chose, ils souffrent tous.
Hugo Clément est avec nous, ainsi que Katia Raffarin qui publie « Au secours, mon ado est végétarien » aux éditions First et Perico Légas, du panier à l'assiette pour en finir avec la malbouffe chez Solar. À tout de suite sur Europe 1. Mathilde veut réagir après la pause.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Un monde végétarien est-il possible ? le tour de la question avec Wendy Bouchard. Ah bah
c'est le monde en tout cas dont rêve. C'est l'un de ses chapitres, Hugo Clément, comment j'ai arrêté de manger les animaux aux éditions du Seuil. C'est le monde dont rêve Théo, le oui. fils de Katia Raffarin, qui a 17 ans aujourd'hui, qui a fait ce choix. Est-ce un monde aussi que caressent de leur vœu vos enfants, Père et Collégas?
Écoutez, vous savez, autrefois, avant de passer à table, on croisait le pain et il y avait une oui. petite prière. Aujourd'hui, lorsque nous mangeons de la viande, infiniment moins qu'autrefois, et une viande extrêmement sélectionnée, puisque j'ai la chance par mon métier de pouvoir m'assurer de la traçabilité de la viande, j'explique à mes enfants que ce soit un morceau de vache, un morceau d'agneau ou un morceau de porc, que c'est un animal qui a été sacrifié, qu'on a tué pour les nourrir. Et je leur explique qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont tués dans des conditions épouvantables et des gens qui mangent sans savoir ce qu'ils mangent. Mmh. Voilà, donc il y a quasiment une prière pour ouais. rendre grâce au sacrifice de l'animal. Je sais que c'est un côté religieux, mais c'est la seule façon que j'ai de leur faire comprendre que quand ils seront grands, ils devront choisir leur aliment, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais de la viande, c'est un produit, un animal vivant, c'est du vivant et que ça a été respecté. Et que si ils n'ont pas la garantie et l'assurance que ça a été fait comme ça, à ce moment-là, il faudra renoncer à manger de la viande.
Mais il n'y a pas que l'aspect religieux et sacrificiel, hein, ce que j'expliquais. En fait, moi, en tant que maman, avant que mon fils me fasse cette demande, j'étais très heureuse de faire mon épaule d'agneau à Pâques. Il n'y avait pas de souci.
Il y a un côté convivial. C'est convivial aussi dans la cuisine.
On peut
le faire de la même manière.
Voilà, c'est culturel pour faire plaisir à ses invités, à ceux qu'on adore. On va chez le meilleur boucher du coin. On fait son épaule d'agneau, on la fait rôtir pendant 7 heures. Enfin, c'est quand j'y pense aujourd'hui, mais je me dis.
Ça veut dire quoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous, de oui. fait, par l'impact du choix de votre fils, oui. Avec votre mari, vous ne mangez plus de viande ?
C'est terminé. C'est aussi...
Ah oui, donc il vous a. Ouais,
il nous a vraiment.
Mais ça, converti.
Ça, non, pas converti. Il nous a persuadé. C'est pas oui. la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est le bon sens. Moi, j'ai écouté son bon sens. Parce qu'à un moment donné.
Quand on passe du conventionnel au bio, on dit conversion au bio.
Oui, mais la. Mais la conversion a des justement oui oui.
Non. J'ai pas dit endoctrinement, j'ai pas dit endoctriné, j'ai
mais
dit
ça à côté oui, ça a une image si vous êtes revenu dessus, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça a quelque chose de très fort quand même comme.
Oui, mais c'est vous alors on vous sent très à vif là-dessus sur
oui,
le
parce
comme
que,
si vous étiez plus militante que votre fils.
Oui, mais je le suis oui, en fait en me le disant, je me dis que oui, mais finalement. Oui. Mais parce que je regarde Hugo qui est presque plus calme que moi, mais oui. il a beaucoup plus l'habitude aussi.
Non, mais moi alors moi je pense que c'est ouais, moi je pense que c'est super important d'être zen sur ces questions là parce que à la fois du côté de certains véganes effectivement que je trouve un peu trop extrémistes et à la fois de l'autre côté du côté des défenseurs acharnés de l'élevage et de l'élevage industriel, je pense que ça empêche tout dialogue et tout débat. Oui, et moi je suis très apaisé sur cette question. On n'est pas d'accord avec Perry Collégas sur ce sujet là sur les détails, mais je pense qu'on pourrait
je pense qu'on pourrait
passer un super dîner. Absolument. Lui avec sa côte de bœuf bio et moi avec mon steak végane sans s'engueuler et en avançant sur le sujet. Mmh. Et moi, le but de ce bouquin, c'est pour ça que je l'ai appelé « Comment j'ai arrêté de manger les animaux » et pas « Pourquoi vous devez arrêter de manger les animaux ?» C'est parce que je pense qu'il ne faut pas être dans l'imprécation sur ce truc-là. Il ne faut pas dire aux gens, voilà, moi, du haut de mes 29 ans, journaliste, je vais vous expliquer ce que vous devez manger. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Il faut juste dire, voilà ce que j'ai découvert comme information, je vous les mets sous les yeux et vous faites ce que vous voulez. Oui. Et ma compagne, Alexandra, elle mange encore de la viande et on se parle, hein, tout va bien. tout va bien.
Et puis, il faut faire bien les choses, si vous voulez, parce que la malbouffe végétarienne, ça existe aussi. Vous en parlez dans votre livre, Katia Raffarin. Être végétarien, c'est pas forcément devenir un saint de la nutrition. C'est simplement de refuser de manger de pauvres bestioles innocentes, dites-vous. Du coup, oui, être végétarien, c'est parfois continuer à consommer du sucre, des farines blanches, des chips, des steaks végétaux, des sodas. Et là,
on
il faut
peut être
faire
végétarien
très
et très mal se nourrir et encourir les mêmes risques que les gens qui mangent de la mauvaise viande, absolument.
Oui. D'ailleurs, l'industrie agroalimentaire l'a compris.
Ah oui, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, moi, dans le végétarien.
Ah, on a toujours dire des produits tout faits.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'au départ, en termes d'organisation, il a bien fallu que j'aille au plus rapide. Donc, pour me rassurer, j'ai acheté des galettes toutes faites au soja, des steaks de soja, pour mettre dans les hamburgers, pour voir ce que ça faisait. Et j'y suis venue petit à petit.
Oui, parce que le
ils
soja
font des efforts.
En la matière...
Non, attendez, il faut en même temps. Il y a encore des voyous.
Après, on fait la
mais il y a aussi dans l'industrie réglementaire des gens qui sont conscients de ces
enjeux. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très bon.
Gigantesque.
Merci. Mais il faut faire attention.
Et à tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
Europe 1. Oui,
Une citation pour suivre cette émission, Wendy.
Alors, je vais vous en lire deux. D'abord, le Mahatma Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est le message que vous portez, Hugo Clément, comme d'autres végétariens.
Je n'ai pas la prétention d'être Gandhi, attention.
et vous pouvez aussi lire les mots de Théo, qui sont dans votre livre, Katia Raffarin, les mots de votre fils de 17 ans aujourd'hui.
Changer d'alimentation, c'est plus qu'une mode pour notre génération. C'est un mouvement politique, philosophique, qui s'accompagne d'une vraie prise de conscience.
Voilà, avec évidemment pas une volonté de prosélytisme, Hugo Clément, mais d'explication. Et ça, c'est le journaliste qui parle aussi, vous vous rendez sur les faits et sur ces constats.
Ouais, parce qu'en fait, les faits sont tellement accablants sur ce sujet-là que c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense qu'il faut juste expliquer comment ça se passe, donner aux gens les clés pour décider, parce que ça, c'est le vrai problème, c'est qu'en fait, les consommateurs ne savent pas encore aujourd'hui ce qui se passe dans les élevages.
Sur le poulet,
sur les chalutiers, sur le poulet. Le poulet, on pourrait en parler pendant des heures, plus de 70% du poulet qu'on mange aujourd'hui en France, qui est élevé en France, c'est du poulet qui est élevé dans des hangars, dans des énormes bâtiments, et la majorité des poulets élevés en France, ils ont un espace par personne qui est inférieur à une feuille à 4.
C'est la norme européenne.
C'est la norme européenne, et ils vivent une existence dérisoire, puisque c'est quelques semaines.
Ils ne mènent pas une vie,
ils peuvent pas étendre leurs ailes. C'est absolument abominable, alors qu'on sait aujourd'hui que les poulets sont des oiseaux très intelligents. Je veux dire, les poules ont une réputation d'être un peu idiotes, c'est totalement faux, et c'est vrai pour la plupart des animaux qu'on mange. On s'est arrangé de manière sémantique. Le mouton, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, qui suit le troupeau. Le porc, c'est quelqu'un de sale et maintenant d'un prédateur sexuel. Le poulet, la poule, c'est un peu quelqu'un d'idiot, etc. Alors que ces animaux-là sont extrêmement intelligents. Ce sont des animaux qui, d'un point de vue cognitif, n'ont rien à envier aux chats et aux chiens.
Voilà, il faut le savoir aussi. Mathilde nous écrit de Villiers-les-Aprés. Je ne mange plus du tout d'animaux. J'ai commencé à supprimer la viande, puis le poisson et le reste. Aujourd'hui, je ne peux même plus tuer une mouche ou une punaise. Je fais très attention à ce qui m'entoure. Je fais de l'exercice et je me porte comme un charme. Est-ce que vous cuisiner aussi davantage qu'avant, Katia Raffarin? Vous nous disiez votre facilité au départ.
Pas davantage qu'avant.
Pas davantage
Non, pas du tout, puisque remplacer la viande, c'est très simple. Hein, c'est des légumineuses, comme je disais tout à l'heure, des céréales, plus d'oléagineux. En fait, la cuisine végétarienne, c'est du mélange.
Oui.
On passe notre temps à mélanger les choses.
Pour donner du goût aussi.
Absolument, mais dans toute cuisine, pour donner du goût, il faut mettre des épices.
Et votre fils, il vous aide à la cuisine?
Ah oui, il devient même meilleur.
Oui. Il y est forcé aussi.
Famille virtuelle,
franchement. Katia, vous préparez un repas. Je veux dire, on ne parlait pas de recettes, mais vous faites quand même une préparation.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça vous amène à retravailler.
Voilà, bien sûr, absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas plus difficile qu'avant.
Ah non, on parlait de cuisine, on parlait de préparer le repas à la maison.
Avec des rillettes de haricots blancs, des soupes de courgettes, tomates farcies de légumes. Pizza de la casa.
Je me suis amusée à végétaliser, et c'est pour ça que je voulais demander à Hugo aussi ce qu'il cuisinait. Je me suis amusée à végétaliser tous les plats qu'adoraient les adolescents.
Oui.
Donc les pizzas, le couscous, les spaghettis bolognaise.
C'est facile.
Que des trucs faciles,
couscous,
attention. Légumes, les hamburgers, avec des galettes de légumes, de céréales. Enfin, voilà, on s'amuse. Voilà,
oui, c'est ça, c'est très ludique.
Il faut
vous rassurer. Vous en faites aussi ou...
En fait, c'est super simple. Alors, végétarien, c'est facile. Vegan, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, parce que vegan, on exclut les œufs et le lait.
Moi, je ne suis pas encore vegan, donc je ne cuisine pas vegan. Je ne peux pas vous parler de ce que je ne connais pas pour l'instant. Mais en tout cas, végétarien, c'est super simple. Vous mangez une pizza, il suffit d'enlever le jambon. Vous mangez des pâtes, il suffit de ne pas mettre de lardons. Vous mangez...
Il y en a rarement.
La majorité des plats traditionnels qu'on mange, les gratins, etc., vous pouvez les faire avec des légumes sans viande et sans poisson. Ça ne pose aucun problème. Et moi, je n'ai aucune frustration. Et c'est super important de le dire, parce que souvent, on me dit mais mon pauvre, tu dois te faire chier à table. Mais pas du tout. La gastronomie végétarienne est ultra varié. Il y a plein de pays dans le monde où la gastronomie est essentiellement végétarienne et où c'est super bon.
Le plus dur, c'est de retirer les produits
végétaux. On enlève le poisson grillé et on tend les pommes. Manger les pommes, c'est aussi le maître mot du Hugo Clément. C'est en couverture de votre ouvrage. Comment j'ai arrêté de manger les animaux? Au secours, mon ado est végétarien. Les deux livres du jour. Je rajoute celui de notre ami Perico Legas, du panier à l'assiette chez Solar. Et votez, mangez, c'est voter le jeudi à 20h sur Public Sénat pour vous, Perico. Merci à tous de ce beau tour de la question.
Merci
beaucoup.
Et à
demain sur Europe 1, ma chère Julie.
À demain. C'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Roumanoff.